Allô ? Allô ? Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonsoir à tous.
Salut cher auditeur.
Bonsoir, c'est Radio MDR.
Avant toute autre chose, je vous souhaite une excellente journée.
Vous êtes un ami de la Mireille ?
Je suis Guita et World of Indie Rock.
C'est Ivan Kolpakov ici pour le Cardio Américain.
Et bienvenue à l'émission des couleurs caribes sur MDM.
Je m'appelle Samir, je suis né au Brésil et j'habite à Mont-de-Marsan il y a environ 10 ans.
C'est quoi toute cette smala?
Vous êtes en train d'écouter des nouveaux numéros d'émission Lignan 3.
Couleurs caribes, c'est 100% latino.
L'émission 100% vinyle.
C'est vrai ou c'est du pipeau?
Merci de votre écoute.
Le rock'n'roll n'est pas mort, mais se retrouve dans le réseau underground.
Sur MDM avec couleurs caribes.
Comme d'habitude, tu as dégoté des copains qui sont top.
Over and out.
Merci beaucoup.
You're listening to Radio MDM.
Il a raccroché en plus.
Ils et elles sont tchèques, américains, indiens ou brésiliens. Point commun pour, outre leur passage lumineux dans nos studios, s'être installés dans les Landes et du coup avoir souvent eu à répondre à la bienveillante question « Mais au fait, qu'est-ce que t'es venu foutre ici ?» De cette récurrente question découlera donc une émission préparée pour ce premier numéro par Arnaud Mora et votre serviteur. Qu'est-ce que t'es venu foutre ici? C'est échanger avec celles et ceux venus de proches ou lointaines contrées, ne parlant pas à l'origine un seul mot de gascon, voire même de français, et qui ont décidé ou ont dû quitter la terre qui les a vus naître, comprendre aussi pourquoi ils et elles ont pris racine sur le sol landais. C'est aussi dire que, je sais pas vous moi, mais les prénoms Guitangeli, Joseph ou encore Zinedine, Jane, Leila, Vassili, voire même Anthony, même s'ils ne sont pas dans le calendrier, moi je trouve ça joli. Elles, au pluriel, s'appellent Anna et Rosalore Inostroza. Elles ont respectivement 45 et 42 ans et habitent Mont-de-Marsan. La vie de ces deux sœurs a basculé le 11 septembre. Attention, pas celui de 2001, celui de 1973, date dans leur pays, à Santiago du Chili, du coup d'état militaire du général Pinochet. C'est d'abord leur grand-mère qui va fuir la dictature, instaurée par la junte militaire, pour trouver refuge en France, à Alfortville. De là, en région parisienne, elle organise la venue du reste de la famille. Nous sommes alors en décembre 1983, la veille de Noël. Anna n'a alors que 7 ans, mais se souvient très bien du jour du départ à l'aéroport de Santiago.
Il y a une tante, une sœur à mon père qui arrive en retard, en courant, et les embrassades, les pleurs, parce qu'à ce moment-là,
on savait qu'on n'allait pas se revoir puisque les frontières étaient fermées.
Ouais,
on n'avait plus le droit de revenir après.
Voilà, on quittait notre pays, on ne savait pas si on allait pouvoir un jour revenir. Nous, on ne prenait pas conscience encore de tout ça, on était gamins. Mais je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui allait chambouler notre vie puisque mes parents pleuraient, la famille pleurait. Arrivé dans le froid, on quitte un pays chaud au mois de décembre.
Moi, c'est ça. Le plus gros souvenir que j'ai, c'est ça. En fait, au Chili, je n'étais pas scolarisée parce que ce n'était pas encore obligatoire. Et en France, la première chose qu'on a dit à nos parents, c'est de nous scolariser. Du coup, moi, je me suis retrouvée du jour au lendemain en plein hiver et dans une école sans parler un mot de français, à 4 ans et des brouettes, quoi.
Personne ne parle un mot de français. Au Chili, même si on ne se connaît pas, on se dit bonjour, on se salue dans la rue. Ici en France, premier mot que j'ai appris, c'est bonjour. Et quand moi, gamine, je me promène pour aller à l'école avec ma mère et je dis bonjour aux gens, on ne me répond pas. Et ça me surprend, je dis à ma mère, mais pourquoi on ne me répond pas? Je leur dis bonjour.
Donc à l'accueil à Alfortville, les enfants sont cruels.
Les enfants, les parents. C'était les adultes qui n'avaient aucune patience, qui me poussaient dans le rang parce que je ne comprenais pas forcément qu'il fallait se mettre tout de suite dans le rang. Et on me poussait, puisque je pigeais pas un mot de ce qu'il disait. Donc je me rappelle que ma mère, elle me regardait de la fenêtre du bâtiment, parce qu'on était en face de l'école, et elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle me voyait dans la cour pleurer.
Contrairement à Rosa, moi je suis allée directement en classe de CP avec mon frère. Mais c'était comme un CP, et puis j'étais pas toute seule dans ma classe, j'avais mon frère. Donc on était tous les deux dans le même bain, et donc on se soutenait lui et moi.
Ça se passe pas bien, vous me dites, à l'école, avec les adultes, et ça va rapidement pas bien se passer non plus à Alfortville avec...
Avec notre grand-mère. Ouais. Oui, notre grand-mère, je sais pas, ça a duré 6 mois peut-être, même pas.
Ma grand-mère a fait venir ses enfants, mais ma grand-mère n'a jamais été quelqu'un de très maternel, et encore moins avec notre mère.
D'accord.
Donc les conflits ont surgi très vite. Mon père, je crois qu'au bout d'un mois, sur les conseils d'un ami chilien, il est parti voir une association qui s'occupait des réfugiés. Et cette association a proposé à mon père un foyer d'accueil. Donc on s'est retrouvés à Puteaux, en région parisienne toujours. On y est resté 2-3 mois. Et de là, de Puteaux, on est arrivé à Mont-de-Marsan. Et ils avaient la possibilité d'aller sur Strasbourg, Marseille et Mont-de-Marsan.
Alors c'est là que c'est assez savoureux. Pourquoi ne pas avoir choisi une plus grande métropole avec, on se dit peut-être, une communauté chilienne ou sud-américaine pour peut-être s'intégrer plus facilement? Pourquoi avoir choisi Mont-de-Marsan?
Alors en fait, Strasbourg, Marseille, pour mes parents, ça voulait rien dire, quoi. Ça voulait pas dire une grande ville. C'était juste un nom parmi tant d'autres. Ce qui a surtout poussé à choisir Mont-de-Marsan, c'est juste le nom, Mont-de-Marsan. Parce que ça commençait par Mont, et ma mère, elle a cru qu'il y avait la montagne. C'est tout. Donc à mon avis, quand elle est arrivée, elle a dû être un peu déçue, à part la colline de Saint-Sever, route de Saint-Sever.
Elle dit, c'est la cordillère des Landes.
Mais bon, c'est drôle l'anecdote, c'est drôle. Après, mes parents...
Ça tient qu'à ça, en fait.
Ça tient qu'à ça. Après, on est arrivé, mes parents, ils étaient très jeunes.
Ils auraient pu être à Montluçon ou à Montferrand.
Exactement.
C'est ça.
Ouais. Peut-être à Mont-de-Marsan.
Ils se sont pas posé la question à savoir, c'est mieux ça, c'est mieux... Ils voulaient juste partir. Avoir un endroit où nous, on serait tranquille.
Ce qui est étrange, c'est qu'on quitte notre pays, on est accueillis ici en France. Et celle qui nous accueille le plus mal, en fait, c'est la grand-mère maternelle.
En fait, ce sont mes oncles et mes tantes qui ont travaillé pour nous faire venir eux, parce qu'elles, justement, elles poussaient au contraire en disant « Ouais, c'est bon, il y a le temps. » Mais bon, ça fait quoi, une quinzaine d'années qu'on n'a plus du tout de relation avec elles, ni notre mère d'ailleurs, puisque nous, on a demandé à notre mère d'arrêter, en fait, le contact avec elles.
Et beaucoup de déracinement, tout ça.
Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de soucis avec le déracinement. Il y a peut-être 4 ou 5 ans où ça commence vraiment à aller mieux. Mais j'ai, pendant 30 ans facile, été en quête d'identité, quoi.
Vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi sed de ti. Traigo en mi equipaje del destierro amistad fraterna de otro suelo, atrás dejo penas y deseos. Vuelvo por vivir de nuevo entero. Vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti. Vuelvo, vida, vuelvo a vivir en ti, país.
Premier numéro de « Qu'est-ce que t'es venu foutre ici ?» Question posée affectueusement à Anna et Rosa, qui au milieu des années 80, alors âgées de 7 et 5 ans, vont passer en quelques mois de l'exil de leur terre natale au Chili, à la région parisienne, puis à la gare de Morsinx, avant d'arriver à Mont-de-Marsan. Récit.
Je ne me rappelle pas de ce jour exactement, mais mon père me l'a tellement raconté que j'ai l'impression d'avoir des souvenirs.
Avril 84 à Mont-de-Marsan.
Apparemment, il y avait un comité d'accueil avec des gens du Pérouat, de plusieurs nationalités, mon père m'a dit. Et que quand il est descendu du train et qu'il a vu déjà cet accueil, tout de suite, ça l'a ému. Ça l'a ému, il ne s'attendait pas à ça. Mais en fait, ils sont allés de surprise en surprise, parce que dès qu'ils sont rentrés dans l'appartement, ils n'en revenaient pas non plus. Chacun notre chambre, avec Anna, on partageait la nôtre. Ouais. Et c'était déjà... Comment te dire?
Que ce soit au Chili ou à Alfortville, c'était pas les mêmes.
Alfortville, c'était déjà le luxe. Mais alors, par rapport au Chili, de ce que me racontaient mes parents, dans quoi on vivait.
Moi, j'en ai des souvenirs. Mon père avait fait une maison avec un ami à lui, mais c'était une maison en bois où le toit, c'était de la tôle. Ouais. Je me rappelle ces gros cafards, il y avait des gros cafards. Et cette maison était coupée en deux par un rideau. Un côté on dormait, un côté on mangeait, on se lavait. Et moi je regardais toujours, gamine, de mon lit, je regardais le toit de la maison, et je voulais le bois, et je disais à ma mère, maman, pourquoi on n'a pas ça par terre? Puisque notre sol c'était de la terre. Donc quand on est arrivé au Pays Roite et qu'on est rentré dans cet appartement, c'était du parquet. J'ai trouvé ça magnifique. On avait une soupe qui attendait, parce qu'en fait, les gens du Carrare, à l'époque, c'était au Pays Roite, association de réfugiés, avaient préparé des plats pour quand on arriverait pour nous accueillir. Donc, on avait une table avec plein de plats différents, d'origines différentes, et cette soupe que je vois fumante. Et ce parquet, il était magnifique.
Il y a l'accueil, la chaleur humaine, et puis il y a bon nombre de nationalités.
Ouais, ouais. Toutes les nationalités, mais ils se trouvent tous dans le même quartier, au Pays Roite, là où on arrive. Ben là, on retrouve en fait ce qu'on vivait au Chili. C'est-à-dire qu'on peut sortir dehors, on peut jouer avec tous les gamins, sans être... Mes parents ne sont pas inquiétés.
Non, parce qu'il y a toujours des parents pour surveiller. Si ce n'est pas nos parents qui surveillent le tas de gamins avec nous dedans, c'est d'autres. Donc, c'est les Espagnols en haut.
Et c'est étrange parce que du coup, quand on est reparti de Mont-de-Marsan pour Paris, où on y est resté 4 ans, ouais. Et puis finalement pour revenir dans les Landes à Mont-deux,
c'est comme si rien n'avait changé, voilà. Comme si on nous attendait. C'était énorme, ça, par contre. Ouais.
On a retrouvé des amis de quand on était. Et personne ne nous avait oublié.
On était petits, on est partis. Moi j'avais 8 ans à Paris. Donc je suis revenue, j'avais 12 ans et personne ne nous avait oublié. Ouais.
Ah, c'est pour ça que j'aime peut-être autant cette ville. Même si des fois je me dis, oh, peut-être, pourquoi pas partir sur Toulouse, Bordeaux. Et puis finalement, non, quoi. On est ancré là maintenant. J'ai mes amis ici, j'ai ma famille, celle que moi je me suis construite.
Moi aussi. Moi, à la fin, c'est plus ses amis à elle qui sont mes amis. Contrairement à moi, à ma sœur, j'ai pas assumé. J'ai pas assumé le fait qu'on puisse venir de ce quartier. J'en avais parfois honte. Et du coup, je voulais absolument m'extirper de ce quartier. Et en fait, en faisant ça, j'étais pas à ma place non plus.
Qu'est-ce que vous assumiez pas en vivant dans ce qu'on appelle maintenant
les autres?
On appelle ça le quartier politique de la ville, le quartier du Pays Roite à l'époque, qui n'est absolument pas ce qu'il est aujourd'hui.
Non, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il n'a plus d'identité, ce quartier, en fait.
Parce qu'on a tout aseptisé.
Voilà. Alors qu'avant, peut-être, oui, il y avait des petits soucis, mais déjà, c'était entre nous.
Ouais. Il y en a toujours eu de la délinquance, que ce soit ici ou ailleurs. Mais on était tous solidaires. Aujourd'hui, moi, j'habite juste derrière le quartier du Pays Roite. Le Pays Roite des années 80 et celui d'aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir. Rien. Moi, celui des années 80, alors certes, il ne payait pas de mine. Les bâtiments étaient moches, il y avait tout à refaire. Mais...
Même 90, hein, jusqu'à aller jusqu'aux années 95, 96, il y avait cette solidarité.
Paradoxalement, en repeignant les murs, on a repeint les gens, en fait.
C'est ça. Parce qu'on a surtout enlevé des communautés. Il a fallu reloger les gens pour rebâtir ces gens-là. Ils ne sont pas revenus.
Ce n'était pas la meilleure façon de faire. La meilleure façon de faire, ça aurait été de mettre comme ça se faisait dans les années 80, justement, la preuve que ça fonctionnait. Plus de moyens sociaux, de rassemblements, des choses qui sont venues après dans les années 90, mais de ceux qui vivaient là.
Les années 80, vous me disiez, donc entre gens qui viennent d'Asie, qui viennent d'Afghanistan.
De Turquie, de... Qu'est-ce qu'on a pu encore trouver comme nationalité?
Des ch'tis.
Des ch'tis.
C'est une nationalité, ch'tis. Au Pays Roite avec vous.
C'est ça.
Et je crois qu'il y a une anecdote qui est digne. 20 ans avant, bienvenue chez les ch'tis. Parmi les chocs ou les découvertes culturelles, c'est la nourriture.
Oui, bien sûr.
C'est le premier croissant.
Pour moi, en tout cas, c'était mon premier croissant. Et je m'en rappelle très bien parce qu'eux, ils ouvraient le croissant et ils mettaient du pâté dedans. Et,
comme dans le film.
Ouais, c'est ça.
Ou avec du fromage.
Et ensuite, ils trempaient le croissant dans le café. Et moi, j'étais « Ah, mais ils sont dégueulasses !» disais à ma mère. Je ne sais même pas si je ne lui disais pas en espagnol parce que ma mère, elle se marrait. Mais par contre, j'ai trouvé ça extra, le croissant. C'était une gosse. Comme j'étais petite, cette forme de lune, si tu veux, je trouvais ça énorme, quoi.
Bonsoir, Miloute. Hein? Mais avec cette équipe de Le Poste, on voudrait...
On voudrait
à recommander une même cause. S'il vous plaît, hein?
Excusez-moi, je ne suis pas ch'timi, je suis de la région parisienne et je n'ai rien compris.
Milieu des années 90, il y a eu ce retour sur Paris. Vous revenez, là, adolescente, donc les garçons. Comment ça se passe, les premiers émois?
Moi, j'ai le coup de foudre, en fait, en revenant... à Mont-de-Marsan, au quartier encore du Pays-Roite. Ça fait à peine une semaine que je suis revenue et je croise un garçon. Et puis oui, voilà, coup de foudre. Par le biais de copines que je retrouve, et il finit par le savoir. Et puis ma mère, elle me rappelle une anecdote. Elle me dit, mais tu te rappelles pas de lui ? Je dis, mais non, pas du tout. Elle me dit, mais si, quand tu étais à l'école primaire, il t'avait touché les fesses, tu étais rentrée en pleurant. Et puis finalement, avec lui, ben, on s'est mis en couple et on a eu 2 enfants.
Voilà. Eh bien, écoutez, c'est original comme, ouais, comme mode de rencontre.
Non, moi, ça a toujours été plus compliqué. J'ai pas eu la même chance à chaque fois. Moi, j'étais très proche de mon frère. Ouais. J'étais cul et chemise avec mon frère, d'ailleurs. J'ai été longtemps garçon manqué. Et du coup, mon frère, quand il a commencé à s'intéresser aux filles, eh ben, je me suis retrouvée toute seule, puisque mon frère n'était plus avec moi. Et du coup, bah, voilà, ça s'est passé comme ça, quoi. Des trucs, des bricoles, des histoires pas tellement importantes.
Des trucs d'ado, voilà.
Des trucs d'ado des, jusqu'à...
Des flirts, des béguins, ouais, dans voilà, les booms.
Dans les fêtes de quartier ou dans les fêtes ici à Mont-de-Marsan.
À l'adolescence, il y a aussi, on se forge une culture, notamment une culture musicale. Mmh. Alors, en venant du Chili, vous découvrez quoi, le rock, techno, la pop, quels sont les
même
artistes
pas, parce que mon père, il écoutait beaucoup de choses différentes. Autant il écoutait des chanteurs chiliens. Ma mère était fan de Francis Cabrel, tu vois, ouais, donc on avait le droit à Francis Cabrel de tout petit. Mon père était...
Avant Shakira.
Ouais, avant Shakira. Mon père adorait David Bowie, donc des fois, il se mettait des VHS de concerts de David Bowie, où moi, je passais, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est nul, ça ? Mais n'importe quoi, t'es folle. Il me disait, c'est énorme, c'est un artiste
mondialement
énorme,
connu.
Il a fait plein de trucs.
Même au Chili, il est connu.
J'étais, ah ouais, c'est nul. Donc moi, ce que j'aimais, c'était souvent la même musique que mon frère, puisque j'étais toujours collée à lui.
Non, moi, je me rappelle un artiste que je découvre au Chili devant le poste de télévision, Prince. Alors, Prince n'est pas français. Et je le regarde et je regarde ce clip, c'était Kiss. Et je le trouve beau, je le trouve magnifique, le gars, et la chanson.
Il y en a un qui vous marque également. Il s'appelle Syd Barrett, chanteur fondateur des Pink Floyd.
C'est ça.
Qu'est-ce qui s'est passé avec cet artiste ?
Eh bien, en fait, comme j'ai toujours été plus ou moins fan, ouais, des Pink Floyd par rapport à mon père qui aimait, mon frère ensuite qui jouait quelques accords, comme ça, en autodidacte. Du coup, je me suis mise, il n'y a pas très très longtemps, à m'intéresser à leurs histoires, puisque j'avais envie d'aller visiter Londres et les studios Abbey Road et tout ça, ouais, mais plus pour Pink Floyd que, ouais, pour les Beatles. Et du coup, bah, j'ai découvert Syd Barrett comme ça et j'étais vraiment étonnée parce qu'en fait, bah, je croyais que les Pink Floyd, ça a toujours été avec David Gilmour, que j'adore aussi.
Ouais.
Son histoire, elle est juste énorme, d'un gars qui tout réussit, qui a tout, la beauté.
Et qui s'est flambé le cerveau.
Et qui s'est flambé le cerveau, qui a tout perdu et qui s'est retrouvé sans personne, enfermé dans sa maison, à gratter ses toiles. Oh, where are you now, pussy willow that smiled on this leaf? When I was alone, you promised a stone from your heart. My head kissed the ground. I was half the way down, treading the sand. Please lift a hand. I'm only a person whose armbands, beads on his hands hang tall. Won't you miss me? Wouldn't you miss me? The poppy birds wave, swing twigs, coffee brands around, brandish a wand with a feathery tongue. My head kissed the ground. I was half the way. Treading the sand, please, please, please lift a hand. I'm only a person with Eskimo chain. I tattooed my brain all the way. Won't you miss me?
Dernière partie de « Qu'est-ce que t'es venu foutre ici ?» où le parcours d'Anna et Rosa de Santiago du Chili à Mont-de-Marsan, après avoir fui la terreur instaurée par le général Pinochet, laquelle s'achèvera au début des années 90, et avec elle, l'envie, plus ou moins, d'un retour au pays.
J'avais l'envie pour mon père. Je dis à mon père, papa, il faut que tu y retournes, là c'est bon, ça fait 15 ans que t'as pas vu ta mère, vas-y. Et il y est retourné. Ouais. Et il y est retourné, et arrivé au Chili, il s'est mis la race. Ouais. Il appréhendait tellement l'arrivée là-bas après 15 ans d'exil, quoi, ouais, qu'il s'est saoulé dans l'avion. Donc, il est arrivé sur ses béquilles, parce que mon père a qu'une jambe, il a eu un cancer, donc il a été amputé très jeune, à l'âge de 20 ans, et il est arrivé bourré. Après 15 ans d'absence, il est arrivé bourré, les larmes et la joie. Et j'imagine que pour lui, de repartir après les un mois et demi où il y est resté, ça a dû être très difficile aussi.
Vous décidez d'y aller, vous pouvez vous y rendre?
Moi, j'y vais à 25 ans. C'est mon père qui a une rentrée d'argent et qui nous paye le billet. Finalement, Rosa n'a pas pu venir parce qu'elle était enceinte de 7 mois. Et c'est là où je repars au Chili et je retrouve ma grand-mère que j'avais jamais oubliée, ma grand-mère paternelle et dont j'avais gardé le souvenir d'une grand-mère aimante qui s'occupait de nous. Et j'ai retrouvé exactement la même personne, plus vieille, mais exactement la même.
Vous me disiez qu'on a préparé cet entretien. Dès que j'ai posé le pied sur le sol, j'ai su que j'étais chez moi.
C'est ça. Ouais, une réaction à laquelle je ne m'attendais pas, mais la sensation de se dire, ça y est, là je suis chez moi. Et puis je retrouve une culture que je ne connais pas, puisque je suis partie jeune. Je retrouve des visages que je n'ai pas vus depuis des années. Je retrouve un climat, mais également le climat avec les gens, les Chiliens, l'ambiance où mon conjoint de l'époque avait acheté un ballon pour le fils de ma tante. Et ce ballon, il a fait le tour de tous les enfants du quartier. Tout, voilà, c'est le partage, on est solidaires, il manque un bout de pain, on va taper chez la voisine pour du sucre.
Ouais, ce qu'on avait, nous, dans les années 80, quoi.
Ce qu'on connaissait ici.
Ouais, ce qu'on avait connu ici en France, au Pays Roite, ben là, je le retrouvais au Chili.
Vous, Rosa, le Chili?
Bah, j'espère toujours y aller, mais...
Toujours pas y aller?
Je suis toujours pas retournée.
Il y a toujours eu quelque chose qui a fait que ça n'a pas pu se faire?
Bah, en fait, avant, un billet, ça coûtait une fortune. Ouais. Maintenant, on peut les trouver à 500-600 balles. Mais à l'époque, quand mon père il y allait, c'était 1200 balles, quoi. Donc,
t'as toujours l'envie d'y aller, mais pas seul.
Il y a une appréhension inconsciemment.
C'est pas ça. C'est qu'en fait, maintenant que mon frère et ma sœur, ils y sont allés, c'est plus pareil pour moi. Ah. Parce que moi, je voulais y aller avec eux. Ouais. Mon déracinement, il vient du manque de mon pays, ok, mais avec mes frères. S'il n'y a pas mes frères, pour moi, ça a moins de sens, en fait. Je vais y aller un jour, c'est sûr, mais sans eux, ça aura forcément moins de sens.
Vous avez construit vos vies, vous êtes toutes les deux mamans.
Deux.
Quel âge?
Ma fille, elle a 20 ans, elle est à l'université à Paris, là, à la Défense, et j'ai mon fils qui a 12 ans.
Et vous, Anna?
Moi, j'en ai 3. 27 ans, 23 bientôt et 16.
Qu'est-ce qu'ils font?
Esteban, il travaille à Saint-Sevé, à la STEF. Ma seconde, elle est en attente d'une formation après un CAP coiffure. Elle veut plus être coiffeuse, donc elle sait pas trop quoi.
Elle se cherche.
Encore, ouais, elle se cherche. Et ma dernière de 16 ans, première, à Victor Duruy. Voilà.
Il vous pose des questions sur votre...
Ma fille, énormément. Mon fils, il commence.
Ouais.
Il commence. Mais ma fille, énormément, ouais. Toutes ces histoires-là, elle les connaît. Puis notre famille, de chaque personne. Parce qu'on a aussi un tonton qui, entre-temps, est décédé. Pas très longtemps après qu'on soit arrivé en France. Ça a été la fin de quelque chose. Lui, il rassemblait tout le monde, en fait. Il s'appelait Lélo.
Ça a été la plus grosse douleur ici en France, ça a été la perte de notre oncle. Ouais, il a été tué ici à Mont-de-Marsan. Son corps a été retrouvé à côté de la sécu, sur le parking. Il s'est fait tuer là. On ne sait pas ce qu'il a vu. En tout cas, toujours est-il que c'était le gérant de la boîte de nuit avec un habitué de la boîte de nuit qui... Il est mort sous les coups, quoi.
Le respect.
Le respect. Mon oncle... Il y avait quelque chose auquel il ne dérogeait pas, c'était le respect. Il fallait avoir le respect de l'aîné, le respect de la famille. Ah ouais, ça a été la plus grosse perte.
Quel regard vous portez aujourd'hui, ça sont toutes ces valeurs, j'imagine que vous essayez de transmettre à vos enfants. Quel regard vous portez sur Mont-de-Marsan, les Landes, la France, ce pays dans lequel vous avez appris à vivre?
Bah, sur la France, très bon regard, évidemment. À mes enfants, je leur dis que c'est la France quand même qui nous a tout donné. Ouais. Bah, si elle ne nous a pas donné la vie, elle nous a donné tout le reste, en tout cas. Ouais. Bon, Mont-de-Marsan, je leur dis d'essayer de voir plus loin parce que qu'ils aient plus de possibilités. Ensuite, s'ils veulent, eux, rester à Mont-de-Marsan, ce sera un choix, mais ce ne sera pas quelque chose de subi, quoi, parce qu'ils n'auront pas pu voir plus loin.
Pareil, comme Rosa, moi, je suis... Je dis merci. Merci à la France qui m'a permis de grandir sans avoir faim, qui m'a permis de reprendre des études à l'âge de 40 ans, qui m'a permis d'élever mes enfants dans de bonnes conditions, parce qu'il faut pas le nier, voilà, qu'ici en France, on a droit à la santé gratuite quand on se retrouve au chômage ou avec les minima sociaux, qu'on a droit à des aides pour élever nos enfants.
Je fais un petit aparté, vous parliez de santé, on a entendu un mot qui doit résonner pour vous, quand des gens manifestent dans la rue en parlant de dictature sanitaire. Ce mot vous fait bondir?
Alors, moi, ça me fait bondir. Déjà, je suis aide-soignante. Donc, le vaccin, je l'ai fait avant même que ça soit obligatoire. Et ouais, ça me fait bondir parce que chez nous, au Chili, les gens font la queue pour avoir ce vaccin. Il est gratuit, merde. Chez nous, le moindre truc pour se soigner coûte une blinde. Et ici, on dénigre le vaccin parce qu'il n'y aurait pas assez de recul. Mais... ouais, ça me met hors de moi.
Le mot en lui-même, dictature, il a forcément une résonance pour vous?
Oui, la dictature, t'as pas vécu la dictature. La dictature, t'es pas libre de penser, t'es pas libre d'agir, t'es pas libre de sortir, t'es pas libre de tes choix, t'es libre de rien du tout.
La dictature, on t'aurait vacciné, puis c'est tout. On t'aurait même pas demandé ton avis. On t'aurait pas dit, est-ce que t'as le droit de dire non? Bon, ok, t'iras pas au cinéma, t'iras pas au restaurant et tout le tralala. Mais tu peux quand même dire non. La dictature, c'est pas ça. Il n'y a pas de question, déjà. Ouais. On ne te pose même pas la question.
Le seul avantage de la dictature, c'est que, grâce à elle, vous êtes là. C'est le seul, vraiment le seul truc, je trouve.
Après, pour certains qui diront qu'on est venu peut-être voler le pain des Français, je pense que si nos parents avaient eu le choix aurait été de rester chez nous.
Parce qu'on croit que les gens, ils choisissent, en fait. Ce qu'ils comprennent pas, en fait, ces gens-là, c'est qu'on n'a pas choisi. Les gens, ils ne décident pas de quitter leur famille. Ils ne décident pas de quitter l'endroit qui les a vus naître et qu'ils aiment. Forcément, parce que c'est viscéral, en fait. Là où on est, on aime cet endroit comme on aimerait notre mère, tu vois. On ne décide pas, ouais, du jour au lendemain, allez, basta, je choisis ce pays et ça va être la fiesta. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. La preuve, parce que nous, on est passé par des choses très difficiles, excellentes aussi. Et je pense que si j'avais vécu chez moi, peut-être j'aurais pas mangé à ma faim, mais j'aurais été chez moi. Tu vois?
Ouais.
Et j'aurais pas eu ce rapport qu'on nous renvoie tout le temps. Ouais, il faut que tu remercies.
Vous vous posez la question, parfois, ce qu'aurait pu être votre vie s'il n'y avait pas eu Pinochet, s'il n'y avait pas eu... Si la famille avait choisi Strasbourg plutôt que Mont-de-Marsan.
Non, ça non. Mais non. Si on était resté...
Ou Marseille.
Moi, très très souvent, d'ailleurs, j'ai beaucoup souvent reproché à mon père d'avoir fait ce choix qu'il n'a pas pensé à nous. Et lui, il me dit, si, qu'au contraire, il a pensé à nous.
Vous vous dites, ouais, finalement, c'est le destin, simplement.
Oui.
Il fallait qu'on fasse notre vie ici.
Ouais, je pense, oui, c'était le destin. Moi, maintenant, quand je me suis eu dit, et si j'avais grandi au Chili? Bah, franchement, je ne pense pas que ça m'aurait plu. Les hommes sont plutôt machos. Moi, je suis plutôt du genre... grande gueule, j'ai jamais eu besoin de quelqu'un qui me pousse au cul pour prendre des décisions. Et là-bas, la femme au Chili, eh ben...
Mon père, justement, il nous a élevés, à ma sœur et moi, tout l'inverse, en fait, de ça, parce qu'il savait, comment sont les hommes. Et du coup, à nous, il nous disait, si on te met un coup, t'en rends deux. Et du coup, on a toujours su se défendre, il n'y a pas eu de problème pour ça, peut-être trop même des fois. Et lui, il nous disait souvent aussi, vous vous mettez avec ce que vous voulez. Mais pas de Chilien, surtout pas de Chilien.
Et finalement, on l'a écouté parce que moi, en tout cas, j'ai jamais été attirée par les Latinos. Jamais.
Et ce qui est drôle, c'est que mon frère, il l'élevait dans l'autre sens. À mon frère, il devait faire les tâches ménagères comme nous. Il lui faisait faire même les trucs les plus chiantes, style sortir les poubelles, les WC, des conneries comme ça, exprès pour que...
Ils comprennent.
Et du coup, mon frère n'est pas du tout macho.
On parlait de liberté. On parlait de liberté, d'accueil, d'un pays qui ouvre les bras, de rencontres. On va se quitter avec une chanson. Je peux avoir l'histoire un peu de cette chanson?
C'est une chanteuse chilienne qui a vécu justement à l'époque de la dictature, où elle remercie la vie, en fait. Pourquoi? ne serait-ce que ça, pour avoir la chance de voir. Elle remercie la vie pour pouvoir marcher dans le chemin qui mène à son amoureux. Et en fait, la chanson, c'est que ça. C'est que de...
Malgré toutes les difficultés que chacun peut rencontrer, c'est on remercie la vie. Parce qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent... Il y a toujours plus pire que nous. En fait, il n'y a pas d'échelle dans la souffrance. Il n'y a pas de... Toi, tu souffres plus que moi. Non, pour celui qui la vit, la souffrance, elle est toujours terrible, en fait.
Gracias por la luz.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo brillado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladrillos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón a su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. gracias a la vida que me ha dado.